ceux qui ont du pouvoir et ceux qui ont de l'autorité. Et donc, je voulais l'évoquer au sujet de cette capacité d'émancipation, savoir que l'autorité, la capacité d'un auteur, c'est précisément d'offrir à tous les spectateurs, à tous ceux à qui il s'adresse, cette puissance d'émancipation. C'est d'accompagner un mouvement d'émancipation. Et que la puissance de transformation des auteurs, c'est pas de créer des objets comme on n'a jamais vu et faire des objets qu'on appelle des œuvres et des créations, c'est que l'œuvre du créateur, c'est le public même, c'est le peuple. C'est faire advenir le peuple auquel il s'adresse, à travers sa création. Mais que ce qui fait qu'une création est une création, c'est pas sa beauté inouïe et son caractère d'originalité exceptionnelle, c'est ce qui donne à une création sa dimension insigne, c'est la capacité pour l'œuvre d'avoir été une puissance de transmission, une puissance d'émancipation pour ceux à qui il s'adresse. Je rappelle toujours ce mot de Jacques Lacan, qui avait paraphrasé la phrase de Buffon, « Le style, c'est l'homme même ». Et Jacques Lacan avait dit, j'ajouterai, l'homme à qui l'on s'adresse. C'est-à-dire que Lacan disait que le choix de la forme dans la création permettait de comprendre la qualité de dignité et de liberté que l'on donnait à celui à qui on s'adressait. Donc, comment on va juger une œuvre ? Bon, on va la juger à la quantité, je dirais, de dignité et de liberté qu'elle donne à ceux à qui elle s'adresse. Ce qui nous quand même est très éclairant pour nous donner un fil conducteur pour juger des œuvres, soi-disant, par lesquelles aujourd'hui, par exemple dans le domaine de la communication audiovisuelle, entre autres, mais ce n'est pas le seul, dans le domaine du spectacle, dans le domaine du divertissement et de la culture, nous voyons à quel point on ne nous respecte pas. À quel point on ne nous considère pas comme des sujets dignes d'égalité et de liberté, on s'adresse à nous en termes de pouvoir. Il y a un non-respect du public. Il y a l'hypothèse que nous sommes au pouvoir. Et donc, les œuvres ne respectent pas le public. Donc, voilà, je voulais mettre en place ces réflexions. Et puis, voilà. J'avais imaginé dire tout à fait autre chose, voyez-vous. Je n'ai pas regardé mon cahier, donc je m'aperçois en regardant que je n'ai rien dit. Enfin, non, ce n'est pas vrai. Non, je n'ai pas rien dit. Mais je n'ai absolument pas suivi ma construction imaginée. Voilà. Peut-être parce qu'on était trois au départ. Voilà. J'ai tâtonné. Pardonnez-moi d'avoir tâtonné, mais finalement, oui, j'ai quand même recouvert un peu les zones, traversé les zones que je voulais traverser, à savoir celle de l'égalité, celle de la dignité, celle de la liberté, et de la conviction qui est la mienne, qu'à partir du moment où je reconnais l'existence de l'autre et où l'autre a droit à mon regard, et à partir du moment où tout autre, où je recueille dans le regard de tout autre ma propre raison d'être, il y a culture, pas besoin d'autre chose. Et qu'après l'accès aux œuvres, c'est un problème très secondaire, la question de la démocratisation, de l'accès, etc. C'est vraiment pour distraire le public tel que le pense le pouvoir. L'accès de tout autre à toute chose est un problème. Ah, comme condition de possibilité, l'hospitalité même, qui est le fondement de la culture. Et que cette hospitalité qui est fondement de la culture, de la reconnaissance de l'égalité de tout autre, c'est la condition de la vie politique, de la vie démocratique, à partir de quoi, si cette vie politique existe, on s'occupera de savoir ce qu'il advient des œuvres et de l'anthologie de nos chefs-d'œuvre, ce qui n'est vraiment pas un souci. Les œuvres se défendent très bien toutes seules. Donc voilà, je m'arrête.
Je vais simplement vous... Merci beaucoup Marie-Josée.
C'est, C'est un thé un peu déconstruit. Mais
et ça va, juste simplement la séance est enregistrée. Ah, je vais vous passer le micro pour que ça passe bien dans le capteur.
Voilà.
Merci, tiens.
Je suis un peu perplexe après votre exposé. Non pas que ce que vous avez dit n'ait pas été intéressant, mais par le fait que j'avais été très attiré par le mot figure de l'inculture. Mmh. Et je me disais que vous alliez au moins tracer les contours de ces figures de l'inculture.
Perte de la parole, perte du temps, perte du corps, voilà, ce sont les figures.
Pour moi, c'est pas justement une figure, c'est pas quelque chose qui est simplement négatif. Je veux dire, bon, ça c'est une première chose. Donc, où se niche l'inculture, comment elle travaille l'inculture, qu'est-ce que c'est que l'inculture, et en quoi elle est distincte aujourd'hui de ce qu'elle pouvait l'être il y a 40 ans, ou il y a 100 ans, ou il y a 200 ans. En quoi elle peut être différente dans une autre culture, sauf à faire ce... Parce que j'avais un peu l'impression de que vous parliez de la culture, comme certains parlent de la République aujourd'hui, de quelque chose de tellement idéalisé qu'on est en train de dire que c'est en train d'être détruit, mais on est presque en train de nous faire croire qu'avant c'était bien. Je veux dire, et que... Et là, j'ai un vrai problème. Je veux dire, par exemple, la destruction de la culture... Aujourd'hui, ça me pose vraiment un problème de qu'est-ce que ça veut dire la destruction de la culture. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des choses qui sont détruites, effectivement. Il y a d'autres choses qui se construisent, pas forcément qui font plaisir au pouvoir. Et voilà. Et puis, le troisième point qui me semble frappant, qui est votre démarrage par Foucault, c'est-à-dire une analyse en termes de dispositifs. En termes de pouvoir, de rapport de pouvoir, de construction de pouvoir, de discours de pouvoir, etc. Mais sans que n'apparaisse jamais, comme si on retournait finalement avant Marx, la question économique, la question des bases matérielles de tout cela. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Foucault peut être tout à fait utilisé par des philosophes ou des pseudo-philosophes, tout à fait de droite, je veux dire, tout le monde se réclame de Foucault aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas une pensée subversive, Foucault. C'est une pensée tout à fait dans l'air du temps. Je veux dire, et en revanche, donc, cette question, c'est là où je t'aimerais, pour moi, l'explication de l'attaque de la culture, je pense pas que ça soit la haine ou le refus de la part des dirigeants de détruire la culture, même les interminables du spectacle, leur motif est tout à fait différent. Ils n'ont aucune haine. Ils peuvent en avoir dans l'expression comme individu, mais ils n'ont pas de haine. Ils ont un truc, c'est un truc qui n'est pas rentable. C'est un truc qui ne rapportera pas les 10% à leurs actionnaires. C'est un truc qui échappe à la marchandise. Donc, leur motif, il n'est absolument pas de l'ordre idéal, est-ce qu'on peut rentabiliser ? Ce truc-là nous échappe, là, ça coûte trop cher, c'est pas le moment. C'est beaucoup plus ça la question. De la haine, je veux dire, en quelque sorte, c'est comme si on psychologisait, en quelque sorte, des gens qui avaient une pulsion de pouvoir, dont on ne savait pas d'où elle venait, sur quoi elle s'asseyait. Je veux dire, bon, c'est... Moi, ça me gêne un peu, ce genre de... Je ne dis pas que ça ne présente pas des intérêts.
Je ne me suis pas du tout fait comprendre, alors. Parce que j'ai passé, bon, pas aujourd'hui, mais j'ai passé un temps fou à analyser toutes les dispositions de l'OMC concernant la question de la création de la vie intellectuelle, de la vie universitaire, de l'éducation, de l'environnement, de la santé, pour montrer de quelle façon l'organisation... mondial du commerce à travers les dispositifs de la GCS avait justement mercantilisé. Voilà. Bon, je me suis dit, si vous me reprochez effectivement de ne pas être passé par là, faute de temps, mais j'aurais pu vous faire vraiment l'exposé le plus pragmatique possible sur la mercantilisation. Et loin de parler de la destruction de la culture, je pense au contraire qu'elle se défend très très bien. mais que, et que la haine dont je parle n'est pas une haine psychologique, c'est une guerre, qui, c'est pas de la psychologisation. Je dis la haine, je dis pas que... oui, c'est comme quand Rancière parle de la haine de la démocratie, c'est pas une question psychologique du tout. Mais pas du tout, il n'a pas fait un livre de psychologie sur la haine de la démocratie. Il a parlé de la haine pour désigner justement cette guerre qui est faite par la plutocratie actuelle, qui est une plutocratie, aux œuvres de l'esprit, aux activités symboliques, etc., lesquelles, vous avez tout à fait raison, Elles se défendent, mais à quel prix? Et elles se défendent avec, je veux dire, si vous fréquentez, je le vois puisque vous êtes ici, comme moi, tous ces lieux où tous les nerfs et les muscles sont tendus pour faire exister l'art, les artistes, la vie communautaire, la vie, la banlieue, la population, etc. En voyant l'effondrement des crédits, en voyant les difficultés à se réunir, en voyant, je veux dire, c'est évident que toutes les mesures qui sont prises, quand je dis qu'il y a la haine, ce sont des déclarations de guerre avec une rhétorique qu'effectivement ça ne les gêne pas, mais non, ils n'en veulent pas parce que c'est un obstacle à la stratégie du profit. Je suis partie de Foucault en disant je ne suis pas foucaldienne, simplement je me sers de son texte sur le dispositif pour mettre en œuvre ou en jeu la notion de nécessité par rapport au possible. C'est tout ce que j'en ai fait. Hein. C'est l'inéluctable ou le possible. Après, bon, je ne suis pas entrée du tout dans la pensée de Foucault, etc., que je trouve d'ailleurs tout à fait remarquable et digne d'intérêt, hein, mais je ne suis pas foucaldienne. Alors me dire Foucault est utilisé par le pouvoir, mais le pouvoir utilise tout. Deleuze est un des auteurs les plus aimés chez les industriels. Je veux dire, mon problème n'est pas là du tout. Je veux dire que, bien sûr, ça s'appelle le recyclage. Je veux dire, tout est recyclé. L'ensemble, la philosophie, j'ai d'ailleurs ouvert comme ça, en disant, la philosophie est devenue... Et maintenant, dans la mangeoire générale des supermarchés, ok, bon, c'est quand même une guerre livrée à la philosophie. C'est une guerre déclarée à la philosophie. C'est-à-dire, c'est bien parce qu'il faut que la philosophie n'existe plus qu'il faut qu'elle soit partout. Donc, c'est de ça que je me préoccupe. Non, mon problème n'est pas de dire, la culture est en train de disparaître. C'est la politique qui disparaît. Ce qui est en train de... Donc, simplement, la vie politique est atteinte vraiment au plus profond, et c'est-à-dire la vie du débat, la vie de l'opposition, la vie de la question du peuple, de l'existence du peuple, est quelque chose qui est vraiment problématique. Donc, ce qui m'intéresse, justement, dans les enjeux de la culture, comme disent certains, et je n'aime pas cette notion d'enjeu. Donc, dans la question de la culture, c'est de dire à tous ceux que je rencontre, les artistes, les créateurs, tous ceux qui s'occupent, qui sont en charge dans les relations de voisinage, d'hospitalité ou de création, qui sont en charge de la rencontre avec tout autre, ont maintenant dans les mains la possibilité d'une vie politique. C'est-à-dire que non seulement je ne crois pas que cette machine m'écrase, mais je dis que chacun, là où il est en mesure de faire dysfonctionner la machine. Seulement chacun, là où il est. À un moment, j'ai écrit un texte que j'ai intitulé « La puissance des saxifrages ». Je cherchais de quelle façon trouver une métaphore ou une analogie qui soit une illustration analogique de ce que serait la question de la poussée. Hein. D'où va venir la poussée? Puisque nous avons besoin qu'il y ait poussée, transformation, fracture, disruption, discontinuité, qu'il y ait un commencement. Et ma conviction était que chaque sujet, chaque subjectivité et chaque site de subjectivation, dans la rencontre avec tout autre, est en charge de produire, à travers le voisinage et l'hospitalité, les gestes de résistance, d'autres diront d'indignation, pour de résistance, de déclaration de guerre à ceux qui nous font la guerre. Hein, nous sommes en mesure, nous aussi, de mener une guerre. Alors je l'avais appelé les saxifrages, parce qu'au début, je m'étais dit sur qui je pourrais prendre exemple. Et je m'étais laissé aller à me dire j'aimerais que cette société soit comme une termitière. Et que, comme des termites, nous rangions au maximum, souterrainement, clandestinement, partout où nous sommes, le système, ben, ça va bien finir par s'effriter. Et cette métaphore, cette image, ne me satisfaisait pas, parce qu'elle était tellement destructive. Elle était animée par l'envie de ruiner l'ennemi. Bon. Et c'est pour ça qu'après, très vite, d'ailleurs, je l'ai dit, ça ne va pas. Il ne s'agit pas de faire simplement de détruire ce qui me détruit. Il s'agit de revendiquer ce qui me construit. Et donc, je suis passée à une image qui m'a beaucoup plus intéressée, qui était celle du saxifrage, c'est-à-dire des plantes qui n'ont pas de racines et qui sont capables de faire péter les pierres. Elle s'appelle saxifrage à cause de ça. Ça veut dire casse-pierre. Hein. Saxa, c'est la pierre fraguerée, fracturée. Hein. Les plantes qui fracturent les pierres. Alors, elles m'intéressent parce qu'elles n'ont pas de racines. Les racines sont toujours identitaires. Hein. Donc, elles n'ont pas de racines, mais elles arrivent comme ça, par la force du vent, des graines, et elles s'implantent. Elles n'ont pratiquement pas besoin de terre ni de quoi que ce soit, et ça pousse. Et ça pousse tellement que ça fait claquer le béton. Ça pousse entre les pavés. Des saxifrages, il y en a partout. Alors, je m'étais dit, voilà, j'ai envie de donner comme modèle métaphorique de ce sur quoi je compte quant à la poussée, hein, le saxifrage, la plante saxifrage, en disant, nous sommes tous en mesure de reconnaître que nous sommes habités par cette puissance, par cette poussée, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est pas parce que je ne reconnais pas la structure économique et financière, loin de là, au contraire, mais je dis, elle est fracassable. Elle n'a rien d'inéluctable, elle n'est pas justement un dispositif qui fait bloc de façon sans infractuosité, elle est au contraire, il faut trouver ses points de fragilité, ça c'est comme dans les arts martiaux, il faut trouver là où l'autre va basculer. Tout ce qui nous écrase est écrasable, simplement, peut-être, que si j'ai parlé de la haine, c'est pas pour psychologiser, loin de là, mais c'est pour parler d'une vertu qui pour moi est politique et pas psychologique, c'est celle du courage. Puisque nous vivons dans un système phobocratique, c'est-à-dire où la peur est un mode d'oppression et la sécurité est la réponse, hein, c'est le bon l'agencement, et nous le vivons quotidiennement. Hein. On nous fait peur et on nous sécurise, et on nous sursécurise, et ce qui fait que nous vivons à la fois dans la crainte et la demande de sécurité. Donc, nous sommes parfaitement capables, chacun, là où nous sommes, de faire preuve de courage. Qui que nous soyons, où que nous soyons. Donc, cette question du courage, elle n'est pas pour moi psychologique. Elle est la capacité en chacun de nous de se mettre en péril. Voilà. Et de ne pas céder à la peur et d'assumer l'angoisse, parce que l'angoisse c'est productif, la peur c'est improductif. Donc c'est tout ça qui m'intéresse, c'est pas de la psychologie. Quand je parle de psychanalyse, c'est pas de la psychologie, c'est pour repérer ce qui dans l'histoire de chacun de nous touche à la fois, oui, l'intime bien sûr, l'angoisse est une affaire intime, mais elle a un destin politique. C'est-à-dire que tout ce qui nous touche dans le plus intime a à voir avec la rencontre avec tout autre. Alors, c'est pour ça, si je parle de la psychanalyse, c'est pas non plus pour faire de la psy, hein. C'est pour montrer les résonances dans des registres différents. Bon, mais vous pensez peut-être. Alors, dire que aussi que je fais abstraction de l'analyse marxiste, enfin.
Non, c'est pas ça.
Hein?
On va peut-être pas faire un dialogue, et, ça, et je sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient.
Un dialogue, c'est à deux, un multilogue.
Un multilogue, on va changer de dialogue.
Question. J'ai du mal à me faire comprendre.
Juste un tout petit détail, moi, qui a piqué ma curiosité, je ne sais pas si vous allez avoir le temps de le développer, vous avez parlé de Foucault et de la position qu'il avait par rapport au sujet. Et que vous ne partagiez pas cette position-là. Ça m'aurait été intéressé de vous entendre
oui.
développer.
Bon, c'est sur cette question. C'est presque un problème, je ne dirais pas technique, mais c'est un problème oui, qui a à voir du rapport qu'a eu Foucault avec la phénoménologie. Et donc, la guerre, ou disons le conflit qu'il a habité et la lutte qu'il a menée contre une inflation de la subjectivation, de la subjectivité, et la façon même dont il a mis en perspective ce qu'il a appelé une sorte, enfin, un processus de disparition de la subjectivité, de la d'un certain registre de la désubjectivation. Donc, c'est par rapport à cela, je disais que je ne m'inscrivais pas dans cette lignée-là, non pas que je sois plus phénoménologue que lui, mais parce que, pour prendre un exemple qui est très caractéristique, qui a été éclairant, c'est à la fin, dans les derniers séminaires qu'il a menés, lorsqu'il s'est intéressé, je l'ai juste évoqué, mais à la vie cynique, à la vie du philosophe cynique, ça a été publié dans Courage de la vérité. Voilà, lui aussi a parlé de courage. Mais ce n'était pas par allusion à Foucault que je parlais de courage. Donc, la question de la vie cynique, il a été très, très fasciné par la personnalité de Diogène, ce qu'il appelait la vie philosophique, et la façon dont le philosophe cynique a tout d'un coup dessiné pour lui, dans une fiction qui lui est propre, parce que bon, ce qu'ont été les cyniques est peut-être encore autre chose, mais a dessiné pour lui l'image d'un philosophe qui se dépouille totalement de sa subjectivité, de sa royauté de sujet, la royauté du cogito, de la royauté du sujet, comme s'il y avait une sorte de nudité caractérisée, hein, comme ça, de dépouillement, de nudité, de mise à nu et d'affrontement, de mise en scène même, de mise en scène sur la scène publique de cette nudité et de ces dépouillements dans une position à la fois provocatrice et interpellant le pouvoir, puisque les textes de Diogène face à Alexandre l'intéressaient bien. Pour renverser la question de la royauté et faire de la royauté du philosophe une sorte de renversement de la question du pouvoir dans la nudité d'une faiblesse et d'une disparition. Hein, voilà. Donc, ce que je trouve très, très beau, très touchant, surtout que c'était ces séminaires un peu testamentaires. Et à ce moment-là, si vous voulez, moi, quand je suis revenue un peu sur tous ces textes qui m'intéressaient, parce que, oui, cette question de la vie philosophique, du courage à vérité, vous entendez bien que j'y suis sensible, je me suis dit qu'il y avait là quelque chose qui ne me convenait pas, même politiquement, parce que, justement, puisque, pour reprendre un peu votre argumentation, l'analyse de Foucault ne tenait pratiquement plus compte de la situation économique, historique, d'engagement dans une société réelle, c'est-à-dire la question de la fiction l'emportait finalement sur l'ensemble des conditions réelles dans lesquelles une vie philosophique doit travailler, situation matérielle, situation historique, sociale, de travail, de situation économique. Et là, je dirais que voilà, Foucault, allant au bout de sa pensée, dressait une sorte, de figure, alors là, de figure idéale, hein, de cette tenue, d'une posture. Voilà. Pour moi, enfin, je n'aime pas beaucoup parler de moi, enfin, en tous les cas, dans le travail que je mène avec mes amis philosophes et non philosophes, et ceux avec qui je mène un travail philosophique et qui ne sont pas philosophes, qui sont les gens en fait du cinéma, du spectacle, du cirque, qui sont vraiment des gens qui sont dans le travail de la création et qui sont ceux à quoi je m'intéresse le plus. C'est pas en passant par justement cette façon-là, cette description, cette pensée foucauldienne que je passe. Je pars vraiment de leur situation, de la situation réelle, concrète, matérielle, technique, les plus oppressantes, les plus oppressives, les plus déterminées, pour voir justement comment se constituent des procès de subjectivation qui sont plus, pour moi, travaillés par le travail la démarche et la réflexion que j'ai menée sur l'histoire des images, l'histoire du spectacle, la question de la visibilité, de l'invisibilité, du regard, de la relation à tout autre. Et donc, bon, ben, il n'est pas là. Enfin, c'est pas là. Il ne me donne pas de ressources et il n'est pas, de toute façon, c'est pas la question que lui se pose, ou c'est pas dans ce vocabulaire-là qu'il aborde les questions. J'ai une petite histoire qui est la mienne, hein, qui est que je suis quand même partie de questions politiques et théologiques, à savoir comment on prend le pouvoir sur le corps et le regard des autres et comment se fait la construction ou l'effacement de tout autre dans la rencontre à travers une histoire qui est celle des croyances, des religions, des monothéismes et des luttes politiques. Donc c'est pour ça que je dis, je peux m'inspirer de pensées comme celle de Foucault, comme celle de Deleuze, etc., mais j'ai mes propres constituants, j'ai mon propre échiquier, et j'ai construit ce qu'un de mes amis philosophes appelle mon champ. Hein. Mm-hmm. Mon champ n'est pas le même champ que celui de Foucault. C'est pour ça que c'était pas pour partir de Foucault. Alors j'ai un peu répondu à votre question.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc c'est pareil d'ailleurs, je dirais, par rapport à la phénoménologie. Je suis. Voilà, je l'ai fréquentée, je la fréquente, je la voisine, mais en même temps, je ne suis pas phénoménologue. J'ai beaucoup travaillé avec Jean Toussaint de Santi, oui, précisément, mais presque sur le tranchant de sa séparation avec la phénoménologie. Donc.
Je peux poser une question,
oui,
sur la culture. Ça m'est venu à l'idée en vous écoutant. Hein. C'est-à-dire que j'essaie de turbiner en même temps. Oui. Sur la culture, je dirais que ce que je désignerais comme une culture, ou comme la culture, au vrai, avec ou sans guillemets, elle a une qualité, et qu'elle est à la fois universelle et à la fois d'une très grande diversité. Or, j'ai l'impression que dans le procès aujourd'hui du monde moderne de marchandisation, la culture est prise de plein fouet par deux phénomènes inverses. D'une part, l'uniformisation qui brise les diversités, et d'autre part, la fragmentation qui brise l'idée d'un universel. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on se retrouve avec une différence sans diversité, des individus sans individualité, des collectifs qui n'existent plus, qui sont dissous. Ça, c'est la première. Bon, je veux dire, et l'autre chose auquel je pensais à cet article de Pasolini. Je ne me souviens plus le nom de cet article, c'est dans les écrits corsaires, où il met, je veux dire, là en garde contre de vraies destructions de culture, c'est-à-dire que c'est ça aussi le problème de qu'est-ce qu'on entend par la culture, il fallait définir aussi les figures de la culture, et dit que la culture paysanne millénaire a été complètement détruite par les nouvelles autoroutes de l'information. Bon, il donne son information. Et lui, il parle carrément d'un nouveau totalitarisme, je veux dire, ou d'un nouveau fascisme, et que des cultures ont été totalement détruites. Alors, à ce moment-là, on pouvait penser que c'était rien. Enfin, bon, c'était l'histoire qui avait fait ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte effectivement que ces cultures paysannes qui ont été détruites ont disparu avec eux des savoir-faire sur des terrains, la possibilité de travailler des paysages, etc. Et que ça amène aussi à la catastrophe écologique aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, l'industrie agroalimentaire, elle est l'inculture même. C'est-à-dire elle a détruit, elle ne tient absolument pas compte d'une culture. Alors c'est pour ça que quand je parlais de la culture, moi, je l'entendais presque au sens allemand, c'est-à-dire « Kultur », c'est à la fois la culture et la civilisation. Et je veux dire, et aujourd'hui, comme il y a plusieurs civilisations et plusieurs cultures, il y a effectivement des cultures qui sont menacées. Et donc, il y a un double mouvement. C'est-à-dire que moi, l'idée de la culture, la culture française, l'opéra, le roman, le théâtre, les productions littéraires, etc. Je veux dire, qui sont des choses importantes, mais c'est pas simplement ça qui est en cause. Ça, c'est le haut de l'iceberg. C'est l'eau de l'iceberg culture est vivante. Et on peut aussi parler sur une culture, puis j'arrête là, une culture ouvrière, par exemple, une véritable culture ouvrière, avec des conceptions du travail, des savoir-faire, etc.
Là, je vais vous répondre.
Et des choses, effectivement, qui sont totalement attaquées, dans lesquelles. Après, il suffit de regarder les industries du spectacle aujourd'hui pour comprendre effectivement que tout le monde est dépossédé de sa propre particularité, de sa propre culture et de sa propre individualité pour être plus qu'une espèce de modèle. Et à côté de ça, il y a des modèles de résistance qui, parce que heureusement, il y a toujours des antidotes quand il y a des tas de modèles de résistance qui se créent en même temps dans le monde et qui sont aussi absolument extraordinaires. Donc c'est vous voyez ce que je veux dire, du milieu, quoi.
Oui,
du milieu français.
Mais complètement. Alors,
apparemment,
on est quand même assez d'accord.
Entendu, quoi, bah, hein,
pour moi, la culture n'a rien à voir avec la reconnaissance d'un champ anthologique, les chefs-d'œuvre, etc. Bon, là-dessus, on est complètement d'accord. Je l'ai dit, les œuvres se défendent très bien et on n'a pas besoin que des gens nous donnent les moyens d'y accéder, etc. Ça, c'est vraiment ridicule. Donc, je ne définis pas la culture comme anthologie et à travers des œuvres ou des chefs-d'œuvre. Là-dessus, on est d'accord. Où j'abonderai, mais préciserai, c'est que entre l'effondrement de la culture communiste a été une véritable catastrophe pour la vie de la culture du peuple. C'est-à-dire qu'il y a eu jusqu'après la guerre, au sein du Parti communiste, et en France entre autres, une véritable culture ouvrière. Et le Parti communiste était, avec ses écoles, ses universités, a été un des ferments les plus actifs pour le monde du travail, de faire communiquer le monde du travail et le monde de la culture. Et le fait que l'effondrement du Parti communiste et la disparition de son rôle de constructeur culturel du peuple est quelque chose, justement, dont Pasolini, vous parliez, oui, il y a aussi les lettres luthériennes, enfin, qui sont magnifiques. Il y a une véritable. Pasolini, Guy Debord sont des gens qui, dans les années 70, ont été parfaitement lucides sur ce qui se passait. Enfin, Debord même plus tôt, enfin, des années 58, 59, 60. Voyez ce qui se passait. À savoir qu'il y avait. Que le monde du travail était atteint dans sa chair même, et qu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça que c'est si intéressant de voir tout le travail que fait Nicolas Friis, je suppose que certains d'entre vous le connaissent, à travers la musique et toutes les manifestations qu'il construit de création, à la fois en prison et dans le monde public. C'est de cette réflexion sur le travail contre l'emploi. De dire que le travail, il y a une culture du travail et un travail à faire sur la question de la culture, dans le monde du travail, pour réhabiliter la notion de travail, se réapproprier la notion de travail, qui d'ailleurs touche de très près la dignité, le sentiment de dignité du monde ouvrier, c'est-à-dire être fier de son savoir-faire, et de voir qu'actuellement les gens ne cherchent pas du travail ou on ne leur propose pas du travail, ils vivent uniquement dans la question de l'emploi. Et l'emploi, la notion d'emploi, enfin là il y a eu toute une réflexion très intéressante, hein, je n'invente rien, qui montre à quel point la conception, le passage de la conception du travail à celle de l'emploi, hein, et qui fait que un chômeur n'est pas quelqu'un qui est coupé du monde du travail, mais qui est sans emploi, et qu'il y a une possibilité pour nous tous d'entretenir avec le monde du chômage une relation, pour reconnaître en tout chômeur un travailleur sans emploi, mais quelqu'un qui, de toutes les façons, est potentiellement, justement, comme je le dis, de son égalité de droit, est véritablement quelqu'un qui a un droit au travail et pas seulement une recherche d'emploi. Et ça, c'est très important. Ce vocabulaire du néolibéralisme est très important parce qu'il a, il touche vraiment à des choses, non, tu vois, je crois, très, très importantes.
Je souris parce que je suis chômeur.
Ah oui.
Il n'y a pas longtemps.
Non, mais alors, je suppose, vous m'entendez bien. Cette question de la culture et du travail, c'est très important. C'est pour ça, dans les figures de l'inculture, j'ai dit figure, où j'ai dit, c'est le rapport à la parole, c'est le rapport au temps, c'est le rapport au corps et le rapport au travail. Et que tout cela est atteint. Et que quand les intermittents du spectacle ont été atteints, c'était pour, justement, disqualifier leur travail. Dire, on voudrait uniquement savoir vos œuvres. Montrez-nous vos œuvres. Qualifions vos œuvres, admirons vos œuvres, voyons vos œuvres, payons vos œuvres. On va vous commander des œuvres, on va vous acheter vos œuvres. On va regarder vos œuvres. Et les autres disent, mais et notre travail. Ah, mais ça, c'est... Donc, c'est cela qui est, cette disqualification du travail, elle est partout. Y compris dans la distribution des emplois. Ce qui fait qu'il y a des moments très douloureux où quand est-ce que vous connaissez le travail de Nicolas Friis?
Oui.
Oui, enfin, je l'espère. C'est magnifique, où il a interrogé les savoir-faire. Voilà. La fierté, la nostalgie pour beaucoup, malheureusement, pour la majorité, et la fierté pour les minorités qui ont encore la possibilité d'exercer leur savoir-faire. C'est vraiment, et alors dans le monde du travail féminin, c'est très important aussi, parce que c'est question du savoir-faire. Les savoir-faire, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur la condition des femmes, hein, dans le rapport à la culture. Ça aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, ni de la GCS, ni des femmes. Ni, bon, c'est vrai, c'est très insatisfaisant de parler comme ça. On a l'impression de laisser comme ça des affaires, d'avoir négligé des pans du réel, mais c'est ce qui fait que quand on se parle, peut-être, ça permet de les soulever, de les faire entendre. Vous avez raison, hein, vous avez raison.
Y a-t-il d'autres réactions ?
Oui.
Vous parlez du rapport des parents aux enfants, je crois.
Oui, un peu, oui.
Et la question de l'autorité, et de la conduite, ou oui, c'était le mot de conduire.
Ouais, ça, oui, oui, prendre la tête ou accompagner le mouvement. Oui. Ce sont des images, mais je pense qu'elles ont leur pertinence dans des champs différents.
Et vous n'avez pas parlé d'amour, du coup.
Ah, l'amour.
C'est
vrai, oui.
Faire l'amour une autorité. Et du coup, c'est là où ça devient compliqué.
Non.
Voilà.
Oui, enfin, ça dépend ce que vous appelez compliqué. voilà, oui. C'est pas compliqué au sens où.
Complexe, en tout cas.
Voilà, je préfère. Pardon. Oui, oui, c'est complexe. C'est complexe, c'est difficile. C'est une tâche infinie. La question de l'amour est.
On exerce un pouvoir sur l'autre quand on l'aime.
C'est bien inconscient.
Un peu, non ?
C'est une inconscient. On peut rappeler
l'amour. Alors, voyez, voilà. Le risque, si nous ouvrons la discussion, et Dieu sait que vous avez bien raison de l'ouvrir sur ce sujet, il faudrait bien construire la question, pour ne pas faire de l'amour une situation psychologique. Qu'elle est, évidemment. Hein. Je ne veux pas dire que la psychologie, ça n'existe pas. Mais psychologiser n'est pas souvent, rarement éclairant. Parce que ça, évidemment, dès qu'on psychologise, on entre dans l'indétermination subjective de la pluralité de ceux qui, dans leur intimité, savent ou ne savent pas, échappent ou n'échappent pas, sont dans leur insu ou leur su, etc. Mais la question de l'amour, alors, en tant que philosophe, moi j'aime bien la reprendre là où elle est née, philosophiquement, chez Platon. Parce que ça, s'il y a bien une pensée rigoureuse, philosophique, éthique, théorique, théorétique de l'amour, qui n'a rien abandonné de la question du bonheur, de la beauté ou de la sensualité et du plaisir. Hein. La pensée de Platon est en ce sens extrêmement nourrissante parce qu'elle permet, grâce à Socrate, de déjà saisir ce qui nous permet de distinguer ce qui, de l'amour, relève de la question de l'autre et de la jouissance. Est-ce que, alors, bien, vous allez me dire, c'est un mot de la psychanalyse, mais pas seulement. Hein. Bon, les latins appelaient ça la fruition, mais la jouissance. La jouissance étant, pour tout sujet, l'expérience, l'épreuve qu'il fait de sa propre de la satisfaction de la plus complète, dirait les psychanalystes, de la pulsion. Hein, donc, voilà, l'objet de la pulsion devient en même temps l'objet qui comble la pulsion, et donc ça serait la jouissance dans un rapport d'objet. Donc, toute jouissance, finalement, passe par la réification de son objet. En ce sens, la jouissance, comme le dit bien les termes juridiques, passe par la propriété. Et la propriété vous donne tout pouvoir sur l'objet dont vous êtes propriétaire. Donc il y aurait, si l'amour n'était lié qu'à la jouissance d'un objet, effectivement, dans une relation de pouvoir, il y aura toujours, dans une relation d'amour, on dira qu'il y aura toujours une dimension possible de propriétaire à propriété et de jouissance. Seulement la question, évidemment, de la jouissance, c'est qu'elle ne peut que consommer son propre objet. Et que la destruction de l'objet de la jouissance fait que soit il faut trouver un autre objet pour continuer à jouir, soit il va falloir faire le deuil de l'objet dont on a joui tant qu'il ne s'en présente pas d'autre. Autrement dit, Platon a désigné d'une façon remarquable la question de l'amour en disant que il ne fallait pas que ça dépende de la question de la jouissance, mais de la question du désir. Qu'après tout, c'était beaucoup plus intéressant de poser la question du désir, et Aristote l'aura repris de la même façon, en disant « Toute pensée naît du désir. Toute pensée naît d'un désir. » Donc, à partir du moment où c'est le désir qui est le moteur de l'amour, reste à penser la question du désir en termes d'objet de la satisfaction ou au contraire de non-objet. Si moi je me suis intéressée à l'image, c'est bien précisément parce que l'image est par excellence le site du désir, le site désiré. Que ce soit dans une relation narcissique qui est plus ou moins mortifère ou narcissique constituante, ou dans une relation à tout autre, l'image est ce dans quoi se constitue l'objet du désir. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il y a de l'objet ou pas d'objet ? Voilà. La réponse grecque, qui a nourri d'ailleurs Freud bien plus longtemps, plus tard, et Lacan encore plus tard, c'est que le désir se relance lui-même en renonçant à la possession de son objet, renoncer à la jouissance. C'est-à-dire que le deuil de la jouissance assure la relance du désir. Donc c'est dans cette idée-là que l'amour peut être constituant. C'est-à-dire de quelle façon ? Quand j'aime, mettons, quand j'aime un autre ou une autre, qu'importe, quand j'aime tout autre, voilà, je suis en mesure de renoncer à en jouir pour pérenniser le désir que j'en ai. C'est effectivement ce ratage, ce ratage de l'autre, ce ratage de la capture, que l'amour n'est pas une appropriation. De s'approprier un corps, s'approprier une volonté, s'approprier un autre sujet. Alors c'est vrai que dans ce que je raconte sur l'autorité, entre pouvoir et autorité, se pose la question de la jouissance. Les relations de pouvoir sont des relations de jouissance, ça c'est sûr. Et que les relations d'autorité, que dans l'autorité, il y a nécessairement le suspens de la jouissance. Il y a un suspens de la jouissance. Et c'est ça qui, par exemple, dans la relation parent-enfant, fait que l'enfant va se constituer en apprenant à son tour le suspens de sa propre jouissance. Dans la façon dont la psychanalyse travaille sur l'histoire constituante du petit sujet humain, par exemple, quelqu'un comme Françoise Dolto va parler de la succession des renoncements à la satisfaction d'objets. Abandonner le sevrage, la propreté, etc. Qui sont ces épreuves de renoncement successif, au travail d'une émancipation progressive, d'une construction subjective, où à chaque fois, l'enfant, le petit enfant, va apprendre à renoncer à un registre de la jouissance, à une certaine relation d'objet, jusqu'à ce que sa subjectivité fasse le mettre en demeure et en mesure d'exister pour un autre et de faire exister un autre pour lui. Mais que ça passe par des renoncements à la jouissance. Alors, vous voyez que cette question de l'amour, elle passe par tout ça. Ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas des sujets, comme vous dites, complexes, c'est-à-dire que nous passons notre temps à avoir envie de jouir et à faire l'épreuve de la frustration de notre jouissance, ou au contraire, perversement, à faire l'épreuve de la jouissance que l'on a, du pouvoir qu'on a sur tout autre. Je pense que le pouvoir politique aujourd'hui est absolument fasciné par la question de la jouissance. Jouir de s'approprier, d'avoir plus, d'être, de posséder, c'est vraiment une stratégie de la jouissance, tout le temps. Et on ne nous parle que de ça. Il faut un plus de jouir, on nous invite toujours à jouir plus. Et un plus de jouir, et c'est jamais assez. Et comme évidemment le consommateur est un jouisseur, qui, puisqu'il consomme, détruit ce dont il jouit, il faut qu'il continue à produire les objets de sa jouissance. Et donc, voilà. Et on est dans cette espèce de répétition absolument perverse de la jouissance. Alors, en ce sens, ben voilà pourquoi je parle de la haine. Vous parlez de l'amour, j'ai parlé de la haine. Et quand je parlais de la haine, c'est ça que je voulais dire. C'est que ceux qui sont du côté de la jouissance sont haineux, parce qu'ils sont dans la destruction. Mais c'est pas psychologique. C'est une terrible mécanique qui a plus à voir avec l'architecture de la perversion qu'avec une psychologisation des états d'âme. Ils n'ont pas d'état d'âme. Vous avez parfaitement raison tout à l'heure de dire qu'ils n'ont pas d'état d'âme. C'est pas, voilà. Donc, il y a une indifférence absolue à tout autre.
Mais vous avez formulé tout à l'heure, est-ce que vous avez bien formulé cela ? L'enfant a le droit de désobéir et de mentir.
Oui, il faut le reconnaître.
Non, mais attendez. Vous avez bien dit, a le droit de désobéir et de mentir.
Oui.
Bon, d'accord.
Il faut reconnaître en l'enfant.
Mais reconnaître et avoir le droit, c'est pas la même chose.
Il est de droit le sujet du mensonge et de la désobéissance. C'est la seule façon pour qu'il devienne de droit le sujet d'une égalité dans sa dignité et sa liberté. C'est-à-dire que s'il ne ment pas. Et si il accepte, mettons, d'obéir, il faut qu'il en fasse l'expérience comme un exercice de sa liberté. Il faut qu'il ait le choix.
Oui, mais alors, de quel droit on parle ? De quel droit on parle ? De quel registre du droit ? Alors, si c'est le droit du sujet à devenir, je veux bien l'entendre.
De ça que j'ai parlé.
Non, mais oui. Mais,
parce que quand je parle d'une égalité de droit...
Vous entendez, c'est-à-dire, si je dis à un enfant, tu n'as pas le droit de faire cela. Et qu'il le fait quand même, je peux le sanctionner pour ne pas avoir respecté la règle qui avait été énoncée.
Oui.
Bon. Mais, et c'est autre chose de reconnaître que forcément, en tant qu'enfant, de lui reconnaître un droit de transgresser la règle, c'est pas la même chose. Mais, je veux dire, c'est vous comprenez, dans le sens courant, si je dis à quelqu'un, tu as le droit de mentir, tu as parfaitement le droit de mentir et de désobéir, ça pose un problème.
Non,
c'est une discussion de mots.
Oui, vous préférez que je dise qu'il a le pouvoir.
Parce que c'est vraiment un problème, parce que je veux dire, il faut aussi garder aux mots leur pluralité de sens. Je veux dire, c'est-à-dire à partir du moment où on dit à un enfant, je veux dire, bon, donc l'enfant peut se dire, je veux dire, parce que je veux dire, il peut se dire, donc puisque j'ai le droit de désobéir, je peux donc mettre les doigts dans la prise.
Moi, je
ne veux pas. Mais non, mais non.
Non, c'est vrai que c'est un petit peu un jeu sur les mots, mais c'est vrai qu'en disant qu'un enfant, tu as le droit de ne pas m'obéir, et en même temps, je t'oblige à m'obéir, donc on lui dit quelque chose, et au contraire, il peut être perdu. Enfin, dire, si on radicalise le propos, on est sur quelque chose qui n'a,
attention,
qui n'a
pas beaucoup
de sens. Il ne s'agit pas de lui dire.
Attendez, je n'ai pas dit, vous devez dire à un enfant, tu as le droit.
Voilà,
j'ai parlé d'une égalité de droit en dignité et en liberté qui reconnaît dans l'enfant le pouvoir qu'il doit garder de mentir ou de désobéir. Mais il est évident que si je lui dis « tu n'as pas le droit de mettre les doigts dans la prise », ça n'a pas de sens. Si je lui dis « il ne faut pas mettre les doigts dans la prise pour telle et telle raison », je m'en explique. Je ne suis pas en train de dire ce qu'on dit à l'enfant.
Mais tu n'as pas le droit de tuer alors.
Hein ?
Tu n'as pas le droit de tuer.
Dans la Bible, il n'y a pas écrit « tu n'as pas le droit de tuer », il y a écrit « tu ne tueras point ». C'est pas la non-reconnaissance d'un droit, c'est l'ordre de ne pas. Mais s'il y a l'ordre de ne pas, c'est parce qu'on peut.
Oui, non mais...
Vous n'allez pas donner
«
tu ne tueras point » veut dire « puisque tu es un tueur, puisque tu es un tueur potentiel, je te dis, tu ne tueras point. » Mais on ne dit pas ça à quelqu'un qui ne peut pas être un tueur. Sans quoi on est dans Minority Report.
Tous les gens peuvent être des tueurs, sont des tueurs potentiels.
Minority Report.
Tous les enfants, tous les êtres.
Oui.
Ah bah, je veux dire donc...
Oui. Non, tu vas tuer à moi, ça tombe
voilà.
Bien.
Hein?
Donc c'est pas une question, tu n'as pas le droit de tuer. C'est tu ne tueras. Le texte dit tu ne tueras point. Mais parce que justement. Et on le dit à quelqu'un qui précisément est un tueur. Donc, je ne dois pas être claire du tout. Non,
je pense entre le terme de la reconnaissance de et le droit de.
C'est pas
la liberté. C'est le pouvoir d'eux, c'est pouvoir, la liberté d'eux.
Le pouvoir et le droit, ce n'est pas la même chose.
Le droit, c'est
avoir le droit et pouvoir faire quelque chose, pouvoir faire quelque chose, ça, je peux tout faire. Mais avoir le droit de faire quelque chose, ce n'est pas la même chose.
Je
peux tuer, mais je n'ai pas le droit de tuer. Et je veux dire, et le fait que vous dites, c'est un peu un tour de passe-passe, dire la Bible dit pas, on n'a pas le droit de tuer, elle dit tu ne tueras point. Le droit a mis la phrase tu ne tueras point dans le droit. Et je veux dire, ça veut dire que, traduction, on dit aux gens, vous n'avez pas le droit de tuer. Je veux dire, c'est bien. Je veux dire, et d'ailleurs, même ce droit de tuer, je veux dire, dans une société, il est même, le droit de tuer existe. Puisqu'il est le droit, c'est le monopole de la violence dans nos sociétés est exercé par l'État.
Oui.
Je veux dire, donc le droit de tuer, l'État lui l'a.
Oui.
Ben, mais nous en tant que citoyens, nous on l'a pas le droit de tuer. Je veux dire, donc c'est mais le fait qu'on peut, moi je sais pas comment vous dire, madame. Je veux dire, j'ai un peu l'impression des fois que c'est un reproche que je fais justement à beaucoup de philosophes, de psychanalystes, particulièrement les psychanalystes du côté lacanien, sans dénier les remarquables éclairages que Lacan peut porter sur un tas de choses. Mais il y a un moment donné où on a l'impression que c'est un vocabulaire et que c'est une bagarre pour un vocabulaire, que donc le mot droit tel que l'emploi un tel, c'est comme ça qu'il s'emploie. Et que le mot jouissance, qu'on va distinguer du mot plaisir, etc. Bon, alors, par exemple, vous vous trouvez, si vous devez le traduire en espagnol, vous êtes dans la merde. Parce que gozar, ça veut dire jouir, et puis vous allez à un concert de salsa, et on vous dit à gozar. Je veux dire, on vous dit, allez jouissez, etc. Donc, il y a des moments où il y a une sorte de d'imprimature, comme sur, je veux dire, on peut plus parler du réel devant lacanien parce que le réel c'est l'inaccessible. Je veux dire, donc il y aurait plus qu'une seule chose qui existerait. Or, il y a beaucoup de façons de parler. il y a beaucoup de façons de parler, et je crains que, alors là, je suis psychologue, hein, je veux dire, je crains que une des chutes de la psychanalyse dans la société tient aussi à l'autisme dans lequel se sont enfermés particulièrement ce que moi j'appelle les lacanistes, c'est-à-dire avec une grande dose de psittacisme, je veux dire, des fois qui tient du ridicule. Et en même temps qu'on ne peut plus questionner, ça devient parce que sinon on est résistant à ceci, etc. Donc un discours rond, et on a arrêté le mot une fois pour toutes, on a mis le point de capiton, comme dit Lacan, et puis ça y est, le matelas tient. Bon, ben, moi je ne comprends pas ce genre de façon de parler. Quand on parle avec des gens, alors, quand on est confronté à des gens dans des milieux populaires, je veux dire, bon, comment on leur parle, si on leur parle pas, si on leur dit, si vous, voilà, je vous ai fait répéter la phrase, parce que j'imagine que vous êtes dans une assemblée avec des gens de tous milieux sociaux, des ouvriers, des paysans, etc. Et vous dites cette phrase-là, l'enfant a le droit de désobéir et de mentir. Non, non, mais vous dites cette assertion précisément. Je dis, je comprends très bien comme vous la comprenez, mais je ne comprends pas.
Vous avez dit ça, je vous ai dit oui. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir dit ça. Je pense que
vous l'avez dit. Si.
En tous les cas, pour moi, il était clair que ce que je reconnaissais en l'enfant, c'est la puissance, c'est la possibilité, la puissance de mensonge et de désobéissance.
Ça, reconnaître.
Voilà. Et que je croyais m'être fait comprendre. Si j'ai osé dire que Lacan avait repris quelque chose de Platon, il va de soi qu'en tant que philosophe, si je me réfère à Platon, c'est pas pour lacaniser. Non, je veux dire, quand Platon déplace la question du plaisir sur le désir, je croyais m'être fait comprendre en disant que il voulait déplacer la question de la possession, de la captation de l'objet et du plaisir qu'on éprenait, et qu'on peut traduire par jouissance, sur le désir qui doit se maintenir et qui relance sans arrêt le sujet au-delà de lui-même et toujours et vers tout autre. Ce que Lacan en a fait et que je révère quand je m'y intéresse, c'est une chose, mais j'ai fait exprès de dire « allons vers Platon ». Donc, me faire un procès parce que j'ai dit jouissance, qu'on ne peut pas le traduire en espagnol. Nous sommes...
Des exemples, madame.
Non, mais je veux dire que je ne peux pas être prise en flagrant délit d'avoir lacanisé toute la soirée. Je peux vous faire un numéro, mais non, c'est pas mon but. Je vous assure que je travaille dans des milieux très, très variés. Je m'adresse quasiment jamais à des philosophes et le moins possible à des psys. Bien que beaucoup de psys me demandent, oncologues, analystes, etc., me demandent de faire des choses. Mais je redoute, justement, parce que quand je parle avec des enfants, des adolescents, des circassiens, des artistes, etc., la liberté qui se joue dans les paroles et qui font que, je ne m'accroche pas à un jargon du tout. Ou si je cite, je dis voilà, oui, puis je vais en faire quelque chose pendant 5 minutes, puis on va passer à autre chose. Ce qui est important, c'est comment la parole circule, comment la parole. Alors, si à un moment je suis ambigu, que vous me disiez, vous n'auriez pas dû dire droit, si j'ai dit droit, il faudrait mieux dire pouvoir. Ok, je ne me souviens pas avoir dit droit, mais vous me dites, vous l'avez dit. Bon, on efface, je vais mettre pouvoir de. Mais pas que ça devienne une sorte de procès d'intention sur. Non, parce que il faut que la parole circule et puis que. On essaye justement de placer les choses et de bien comprendre que nous nous battons, nous avons quand même, il ne faut pas se tromper d'ennemi, monsieur, nous avons le même. Donc, il y a un moment où je dis, faisons pas comme si...
C'était sorti que je vous ai agressé ?
Non.
Hein ? Ah non, je ne me sens pas agressée.
Ne se trompe pas d'ennemi. Hein.
Non, 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 ce n'est pas une question. Quand je dis ne se trompons pas d'ennemi, c'est-à-dire que l'objection, il faut que l'objection construise. Parce qu'il y a un moment où je me dis, bon, alors, où j'ai vraiment pas été. J'ai été vraiment confuse et pas claire du tout et contradictoire, ou bien il s'agit simplement d'un réajustement, parce qu'on est d'accord sur le fond, à savoir que l'enfant a véritablement plein statut de personne en dignité et en liberté, à égalité avec tout autre ayant pouvoir sur lui. C'est tout ce que je dis. Ça, oui, je l'assume. Voilà. C'est vraiment une personne à part entière. Et pas en attente de devenir une personne. Voilà. C'est ce que je voulais faire entendre. C'est que l'exercice de l'autorité agit dans une temporalité qui n'est pas celle de la promesse et de l'attente de plus tard tu sauras, plus tard tu pourras, mais que ça se joue au moment de la relation, dans un présent qui a son intensité et son urgence. Et j'y tiens beaucoup parce que je m'intéresse au milieu de l'éducation, au milieu de... j'ai travaillé pendant 2 ans dans les écoles primaires, etc. Donc, très attentif à ce qui se passe dans ces relations où c'est très vite que l'enfant qui ne sait pas... il sait moins, il peut moins... En tout point, donc cette faiblesse de fait ne doit pas cacher ce que j'appelle une égalité de droit. Et c'est cette égalité, c'est là que le mot droit a pour moi son plein sens.
Oui. Bien, bien. Petite confusion peut-être.
Oui.
Il y avait d'autres questions.
Non, juste pour profiter, donc j'ai bien compris votre différence entre autorité et pouvoir, mais moi, je comprends dans ce que vous avez dit, mais en même temps, le mot autorité a un autre sens.
Surtout le mot autoritaire, autoritarisme. Voilà.
Le
oui.
Pouvoir autoritaire.
Autoritaire, autoritarisme, qui est du côté du pouvoir.
Pouvoir, enfin, oui. Donc on est
c'est pour ça. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Je donne au mot autorité un champ sémantique très, très particulier. Parce qu'il va de soi qu'il y a des tas d'usages courants du mot autorité, autoritarisme et autoritaire qui sont entièrement absorbés par la question du pouvoir. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais ça, c'est les Latins qui nous ont planté le décor essentiel en distinguant potestas et auctoritas. Et la philosophie n'en a pas beaucoup tenu compte. Sauf
c'est tout le travail d'Anna Arendt.
Anna Arendt qui a soulevé, et qui a soulevé dans son fameux article magnifique « Qu'est-ce que l'autorité ?» et qui commence l'article ainsi, je ne sais pas si je suis fidèle au texte, je dis « Qu'est-ce que l'autorité ?» je devrais dire plutôt « Qu'était l'autorité ?» comme si elle faisait déjà dans son article le deuil de quelque chose. Un article qui signale que quelque chose est en train de disparaître. Mais je ne suis pas d'accord avec Anna Arendt qui dit que ça commence avec les Romains, ça commence avec les Grecs. Mais c'est une autre affaire. Ça, elle dit qu'il n'y a pas de mot en grec pour dire autorité, ce qui est une erreur colossale. Il y a un mot en grec qui veut dire autorité, qui se traduit par autorité. Tout à fait. Qui est un mot magnifique puisque c'est le même que liberté, c'est vous dire. Là, elle est passée complètement à côté. Mais autrement, son article est magnifique.
Il y a certainement un lien entre autorité et autoriser.
Absolument, s'autoriser. Oui, oui. Oui, oui. Absolument. Autoriser. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Je revendique pour l'enfant un droit d'auteur. Écoutez, j'ai fait comme je pouvais. Dans le temps. Dans le temps.